Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je crois que c'est bientôt Noël. Donc, on fait une petite sélection de cadeaux pour petits et grands. Bon, là, c'est plutôt pour moyens grands et grands. Donc, je suis François, libraire à la librairie Emily Ranjou, en spécialité bande dessinée. Donc, je vais vous présenter des BD. On reste dans l'originalité, ça qui est bien. Tout au long de l'année, j'ai eu des très bonnes lectures, des choses plus ou moins récentes, et je fais une petite sélection qui pourront plaire à plusieurs personnes, plusieurs types de personnes, mais qui ont un point commun, la qualité de l'ouvrage, du scénario et du dessin. Le premier, je vous l'avais déjà présenté il y a quelques mois. Si vous êtes passé par la librairie, je pense que je vous l'ai présenté, mais bon, quand on aime les choses, on continue à en parler. Moi, c'est une bande dessinée qui m'a beaucoup, beaucoup touché, parce que je trouvais qu'il y avait plein de sujets dedans. Et donc, du coup, c'est Les Dames de Kimoto, de Cyril Bonin, aux éditions Sarbacane. L'histoire des Dames de Kimoto, c'est une histoire qui est assez particulière, assez charnière, en fait. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On est au Japon, sur une période qui est très compliquée, très charnière, encore une fois, de 1900 à 1950. Faut savoir que le Japon, à cette période-là, c'est l'ouverture au monde, parce qu'avant, c'était fermé, on ne pouvait pas y aller au Japon. C'est la guerre avec la Russie, c'est la Première Guerre mondiale, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'ouverture au monde, c'est le début du capitalisme, c'est l'ouverture des droits de la femme, c'est plein de choses différentes. Et nous, on va suivre cette période-là, donc ces 50 années-là, à travers le prisme d'une famille, les Kimoto, Kimoto, les gens du fleuve, une famille de petite bourgeoisie, petite noblesse, plutôt que petite bourgeoisie, et sur trois générations, sur la grand-mère, la fille et la petite-fille. Et donc forcément, entre la grand-mère et la petite-fille, il y a une véritable opposition. Pourtant, il y a des points communs qu'ils n'ont pas avec la fille. Pourtant, la fille a des points communs qu'elle n'a pas avec la petite-fille. C'est vraiment une période historique d'un pays vue à travers le prisme de trois personnes, trois générations, qui n'arrivent à la fois pas à se comprendre et à se comprendre en même temps. C'est super. Adapté d'un roman, c'est top. Voilà, c'est Les Dames de Kimoto de Cyril Bonin aux éditions Sarbacane. Alors, pour quel public? Je dirais pour les gens qui aiment bien l'historique, qui aiment bien les histoires de famille, qui aiment bien le Japon, forcément. Donc voilà, je vous encourage à la découvrir. Le deuxième livre, enfin la deuxième BD plutôt, c'est une suite. Une suite que moi, quand j'ai vu le tome 1, j'ai trouvé ça super. Ça s'appelle Le Château des Animaux. Alors forcément, je pense que beaucoup de personnes connaissent Le Château des Animaux. C'est une relecture, une réécriture de La Ferme des Animaux de George Orwell. Donc, cette fable animaliste où on suit les cochons prendre le pouvoir sur une ferme. Sauf que là, c'est pas un cochon. C'est un taureau qui dirige un château, le château des animaux. Et en fait, on va suivre un chat. Un chat qui vit dans ce château-là, à travers plein d'animaux. On a des brebis, des vaches, des chiens. La milice, d'ailleurs, c'est des chiens. Et ce chat, Mrs. B., décide de se rebeller contre la tyrannie du taureau, mais elle va parler de non-violence, elle va parler de désobéissance civile, on va parler de Gandhi. Sous une histoire qui peut paraître très simple de juste enlever la tyrannie, ça nous parle nous, parce que ça nous parle de notre violence intérieure, ça nous parle de notre envie de liberté, du courage aussi. Qu'est-ce que le courage? Ils en parlent dedans. Qu'est-ce que la non-violence? Alors, sous des termes un peu effectivement compliqués, c'est vraiment une histoire d'animaux, c'est une fable qu'on peut conseiller dès 14 ans, et qui est sur le pouvoir, et c'est vraiment très bien. En fait, c'est en 4 tomes, les 3 tomes sont sortis, le 3ème vient de sortir, qui s'appelle La Nuit des Justes, et c'est Le Château des Animaux, aux éditions Casterman, pardon, de Delep et d'Orisson, dès 14 ans, pour un public qui aime bien les histoires, qui aime bien le côté débat, c'est vraiment très très bien. C'est comme Astérix, on lit Astérix à 8 ans, puis on lit Astérix à 20 ans, on n'aura jamais la même lecture, et bien là c'est exactement pareil. Voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup. Le Château des Animaux. Bon là, pour la prochaine, on change complètement de sujet. Autant sur la précédente, on était sur une histoire d'animaux, un peu une fable. Là, c'est aussi une forme de fable. Un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mathieu Bablet, l'auteur de Carbone et Silicium, de Shangri-La, du Grand Mort, de la grande science-fiction, il se teste à un nouveau sujet, la fantasy. Le livre dont je vais vous parler, c'est The Midnight Order, de Mathieu Bablet. Le Midnight Order, en fait, c'est un ordre de sorcières qui chasse les sorcières trop puissantes, qui vont les traquer parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur pouvoir. Et un jour, une sorcière plus puissante que les autres arrive à s'échapper de la Tour Blanche, qui est leur prison, et ils vont partir sur ses traces. Sous une histoire de chasse à l'homme un peu classique, la puissance de cette BD-là, c'est qu'il y a un scénariste, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dessinateurs. L'histoire est découpée en plusieurs épisodes, en 10 épisodes. Et chacun des dessinateurs va illustrer le propos, le scénario de Mathieu Babelais. Alors comme ça on se dit, oui c'est un essai, non ça marche très très bien, c'est vraiment très très bon. Et entre chaque épisode, il y a un petit texte sur qu'est-ce que la sorcellerie, qu'est-ce que l'histoire de la sorcellerie. On parle du procès de Salem, on parle de l'animisme, on y parle de plein de choses. C'est une sorte d'essai en fait sur la sorcellerie, mais aussi une très très chouette histoire. On parle d'exorcisme dans ces petits extraits. C'est très bien pour tout ce qui est sorcellerie. Encore une fois, l'aventure, des gens qui aiment l'histoire, parce qu'on a quand même l'histoire de la sorcellerie. C'est The Midnight Order de Mathieu Babelais aux éditions Label 619, qui est très bien. Voilà, je vous encourage à le découvrir. La chance que j'ai que vous n'avez pas, c'est que moi je vois la couverture et elle est sublime. Je vous encourage à venir la voir. La BD prochaine, c'est aussi une très belle couverture. Encore une fois, vous ne la voyez pas, c'est une chance que j'ai de voir. Tout à l'heure, pour le Château des Animaux, on a parlé de Dorisson. Et ben là, on retrouve une BD de Dorisson avec Montaigne. Alors, la BD est un très beau format. Ça s'appelle 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta. 1629, c'est une grande date dans l'histoire de la marine. Il y a eu un événement. Cette date est connue pour trois choses. La première, qui sont en lien d'ailleurs. La première, c'est l'appareillage du Jakarta. Jakarta, c'est le plus grand navire marchand qui a jamais été appareillé par la compagnie des Indes orientales. C'est 300 personnes à bord. C'est un grand bateau en bois, plusieurs ponts, des hommes, des bêtes, du roturier, du noble, tout ça entassé dans une cale. On voit la pauvrière quand même. La deuxième chose pour qu'on le connaisse, c'est que ce bateau, qui est tellement énorme, a une mutinerie. Une des plus grandes mutineries de l'histoire, fomentée par un apothicaire un peu vicelard. Et la troisième chose, bien sûr, comme dit dans le titre, c'est le naufrage du Jakarta. C'est une grande histoire de marine, c'est aussi un polar, parce qu'on est dans la cale de ce bateau pendant toute la BD, et on voit toutes les intrigues entre les marins, entre les capitaines, entre les nobles, en train de se tisser, et on sait que ça va exploser. On sait pas à quel moment, mais on sait que ça va exploser. Ça sera en deux tomes. Il y a... oui, c'est sort de temps, oui. Mais je vous assure, on reste pas sur sa fin, à la fin du premier, parce que on est sur l'appareillage et sur le naufrage. Enfin, la mutinerie. Et à la fin, on est sur la mutinerie. Sur le début du naufrage. C'est vraiment très très bon. Pour les gens qui aiment le polar, parce qu'on est vraiment, encore une fois, dans un huis clos, c'est absolument top. Bien sûr, une petite partie historique aussi. Dans l'importance de l'histoire, il y a quelques années, il y a une BD qui s'appelle Les Indes Fourbes qui est sortie aux éditions Delcourt. Une grande BD, donc c'est le même format. Pour moi, c'est la même puissance de l'histoire. J'adore. Voilà, c'est 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta de Xavier Dorisson et de Timothée Montaigne aux éditions Glénat, que je vous encourage à venir découvrir. Et la dernière BD, finalement, on a Noël. Donc on va parler d'un chant de Noël. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'un chant de Noël, c'était une histoire qui a été écrite par Dickens, où l'histoire était on suit Scrooge. Scrooge est un homme acariâtre dans le Londres de 1820, riche, seul. Et la nuit de Noël, qui va passer tout seul, il se fait visiter par les trois fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Les trois fantômes, celui du passé va lui montrer pourquoi il est devenu acariâtre. Le fantôme du présent va lui montrer à quel point il est seul, comment tout le monde passe Noël sans lui, et le fantôme du futur va montrer comment il va mourir tout seul. Le réveil arrive, et il devient bon. Et en fait, moi, la première fois que j'ai vu cette histoire-là, qui était adaptée, c'était Disney qui faisait ça. Alors, Disney a adapté beaucoup de classiques, notamment Un chant de Noël. Et qui faisait Scrooge? Eh ben, Uncle Scrooge, qui est Picsou. Donc Picsou était tout seul, forcément, il passe Noël, il se fait visiter par ses trois fantômes du passé, présent et futur, qui étaient sous la forme de Dingo d'ailleurs, et le matin il se réveille et il devient bon. Sauf que pour moi ce revirement il n'a jamais marché, dans le conte, dans les adaptations de Disney, parce que pour moi Picsou a toujours été acariâtre, a toujours été n'aime pas les gens. Donc quand j'ai reçu l'adaptation de Munurea, Un chant de Noël, je me suis dit bon... Est-ce que ce revirement va marcher? Est-ce que quand je vais arriver au matin, quand je vais tourner la page après la nuit, ce revirement va marcher? Est-ce que je vais avoir le sentiment que ça va changer profondément le personnage? Je commence la première page de cette bande dessinée, et je vois qu'il y a un truc qui est différent. C'est plus Scrooge, c'est Elizabeth Scrooge. Le parti pris de Munuréa, c'est de faire de Scrooge une femme. Et ça change beaucoup à nos perceptions. On se rend compte que c'est pas pour les mêmes raisons qu'elle devient incariate, c'est pas pour les mêmes raisons qu'elle est toute seule. Et donc du coup, ça en fait quelque chose de plus vrai, plus profond, plus engagé, plus juste. Et le matin, effectivement, quand on tourne la page, le revirement, on le sent, il est là, il est présent, et il est vrai. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que il y a des choses qui sont très différentes des adaptations classiques. Honnêtement, vous lisez cette BD-là, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de prendre un gros pull moche de Noël et d'être déjà le 25. Donc c'est un chant de Noël de Rollet, Louis Menurea, aux éditions d'Argo. Voilà, voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël et une belle sélection à la librairie pour vous. À bientôt.
Québécois, avec ses bottes de laine et son gros parka. Le Père Noël, c'est un Québécois, son sac de bebelle rempli de joie. Un violon pour Yvon, un banjo pour Léo, des cuillères pour Mireille, puis une guitare pour Tigre Bay. Ah ouais! Hey! Québécois, avec ses bottes de laine et puis son gros parka. Le Père Noël, c'est un Québécois, son sac de Babel rempli de joie. Un scandic pour Ulrich, un tundra pour Linda, un summit, un GSX, puis tout le monde en ouais par là. Alléluia!
Paul Doumer, un château montier, ou et sur l'autre radio.